Donc, je vais donner la parole à Corinne Binoche, qui est kinésithérapeute ostéopathe, qui vient nous parler des spécificités de la rééducation chez les patients fibromyalgiques.
Bonjour. Donc, moi, je ne vais pas apporter de... Je vais plutôt apporter mon regard sur la manière de pratiquer la rééducation dans le cadre de la fibromyalgie. Et voilà, c'est plutôt cette approche-là, puisque la rééducation fait partie des aides et des aides dans les traitements pour la fibromyalgie, parmi d'autres traitements. On n'a pas un traitement unique. Donc, comme vous le savez, le patient fibromyalgique présente des douleurs multiples, permanentes, nuit et jour, variables en intensité et réparties sur l'ensemble du corps, entraînant une diminution de l'activité physique, une perturbation du sommeil, une fatigue permanente et une déprime réactionnelle à la douleur et surtout à l'incapacité physique qu'elle peut entraîner. Alors bien sûr, de par la multiplicité des points douloureux et leur impact sur la vie quotidienne, le traitement en kinésithérapie devra donc être global, s'intéressant au corps. Et ça a l'air d'être une banalité pour vous, fibromyalgique, mais pour la plupart des professionnels de la santé, nous avons l'habitude de segmenter. Donc on vient... C'est une rééducation du genou, du coude ou du dos. Et voilà. Donc, ce qui est pour vous une évidence, l'est pas forcément pour nous, professionnels de la santé. Donc, je tiens à le spécifier ici. Et non seulement ça doit s'intéresser à l'ensemble du corps, mais à l'ensemble de la personne, puisque il y a un retentissement important de ces douleurs et de cette fatigue sur le quotidien de cette personne qui vient nous demander notre aide. Alors, sur la douleur, moi, je privilégierais, et apparemment avec un certain nombre de mes collègues qui ont l'habitude de travailler avec des patients fibromyalgiques, des messages doux, lents. Je pense que le mot « lent » est important parce que il y a une espèce de tension permanente qu'on ressent, nous, sur le corps, quand on touche le corps d'un patient fibromyalgique, quand on touche le muscle. Le muscle est tendu en permanence et hyper réactif à notre manière de toucher. Et donc, je pense que c'est important que les mouvements soient faits de façon lente. Et bien sûr, la pression adaptée à la réaction qu'on sent sous les mains, mais ça, c'est normalement, c'est pas à dire, parce que ça devrait être normal. En crise, le massage, il est préférable de le faire à distance des zones les plus douloureuses, parce que elle ne peut même plus recevoir le toucher. Même poser la main dessus et créer une tension supplémentaire. Donc, il est préférable d'abord de signaler à vos kinés les zones les plus douloureuses et nous kinés de ne pas commencer par ces zones-là. Donc, d'abord de vous le dire et vous de le savoir et de travailler à distance pour s'approcher progressivement de cette zone et de la toucher peut-être en fin de séance et peut-être, et ce n'est pas forcément nécessaire. Parfois, ayant détendu d'autres zones du corps, ça permet de pouvoir mieux gérer la zone hyper douloureuse. Bien sûr, on peut y adjoindre des infrarouges ou toute forme de chaleur, si elle est bien supportée. C'est toujours à s'adapter à la personne. Électrothérapie, si possible. Et bien sûr, être à l'écoute de notre patient et l'accueillir avec ses douleurs, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas dans leur tête, mais bien dans leur corps. Et c'est à dire et à redire. Nous aussi, nous faisons partie des professionnels de la santé où la fibromyalgie n'était pas abordée dans nos études. Donc, vos kinésithérapeutes, s'ils ne sont pas des kinésithérapeutes sortant de l'école, connaissent pas bien la fibromyalgie. Et s'ils ne sont pas intéressés, c'est pas facile de recevoir un patient qui a tout le temps mal et sur lequel ce qu'on fait pas grand chose. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de véhiculer encore et encore cette information, puisqu'il y a aussi des professionnels de la santé ici dans la salle. Alors sur les points spécifiques, on peut, en dehors des crises, en dehors des moments extrêmement douloureux, pouvoir effectuer une pression statique infradouloureuse, maintenue jusqu'à sentir une diminution sous le doigt de la tension musculaire et accompagnée avec des respirations profondes. Voilà, c'est sur les points Yunus, par exemple, ou sur les points de tension musculaire les plus sensibles. Sensibles, les plus sensibles, mais en dehors d'une crise. En ce qui concerne le mouvement, les mouvements permettent quoi ? Un entretien articulaire et musculaire. Et surtout, on doit respecter la règle de la non-douleur. J'aurais plutôt dû écrire la règle de la moindre douleur, c'est-à-dire ne pas augmenter le niveau de douleur que vous avez. Alors, je dis que vous avez, parce que si c'est vous qui faites les mouvements chez vous, ou si c'est vous qui pratiquez, quel que soit le sport ou l'activité, ou même dans votre activité, vous, d'entretien personnel, c'est à respecter. Plus vous allez forcer et dépasser le seuil de la douleur que vous avez, vous pouvez avoir, surtout si vous avez des paramètres associés, un effet rebond et de vous aggraver derrière au lieu de vous améliorer. Donc elle est à respecter et à gérer au mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien sûr. Les limites des mouvements, bien, sont variables. Ils sont variables d'un fibromyalgique à un autre, mais chez le même fibromyalgique, d'un jour à l'autre. Et donc, cette zone de douleur est à respecter, à percevoir et apprendre à reconnaître. Donc, c'est très important que cette zone soit reconnue, soit d'être à l'écoute, d'apprendre à rentrer à l'écoute de soi, mais d'une écoute plus fine pour reconnaître cette zone douloureuse qu'on connaît, mais que le mouvement soit fait lentement pour que justement on puisse arrêter juste à temps avant le moment où on sait que là on risque de déclencher la douleur. Donc ces mouvements ils sont à s'adapter à cette zone là et cette zone là elle-même elle n'est pas la même d'un jour à l'autre. Donc, faut pas arrêter le mouvement avec sa tête en se disant « je vais pas plus haut que là parce que normalement, là, après, j'ai mal ». Ben non, on n'en sait rien. Ça se trouve, aujourd'hui, ça sera jusque là. Et peut-être que demain, ça sera là. Et ça, on ne sait pas. Eh bien, parce que quand on respecte ses limites, c'est aussi apprendre à se respecter soi et aussi à aller dans le sens de l'économie d'énergie, puisqu'en plus, il y a ce syndrome de fatigue permanente, plus ou moins importante, mais qui est quand même là. Et si on veut durer longtemps, mais faut aussi mettre de son côté tout ce qu'on peut faire pour pas l'augmenter. Et quand on augmente la douleur, on augmente la fatigue, on perd en capacité de mouvement. Donc les mouvements, bien, peuvent se faire en actif aidé ou en passif. Ce sont des termes qu'on utilise, nous, en kiné, pour dire soit vous le faites vous, soit on fait ce mouvement et nous, en tant que kiné, on vous accompagne dans ce mouvement, ou en passif, c'est le kiné qui fait le mouvement. Toujours associé à la respiration, qui est souvent, les gens ont tendance, surtout quand on a mal, à travailler en apnée, c'est-à-dire en bloquant la respiration. C'est justement pas du tout ce qu'il faut faire. Il est préférable de souffler lors des mouvements, lentement, justement, pour être à l'écoute et toujours dans son propre rythme et avec un minimum de tension. C'est très important, le mouvement que vous faites, mais surtout la manière dont vous le faites. C'est surtout ça qui est important. Et il y a, chez le fibromyalgique, en plus, le niveau de tension, comme vous avez montré, monsieur docteur Binoche, ce matin, un niveau de tension du muscle de base, le niveau est plus élevé déjà. Donc, souvent, on fait un mouvement en faisant 100% de tout ce qu'on peut faire et on met en jeu tous les groupes musculaires qu'on peut mettre en jeu pour faire ce mouvement. Eh bien là, ça serait apprendre à faire le mouvement avec le moins de muscles, le moins d'énergie possible dans la manière de faire ce mouvement, d'être beaucoup plus fluide. Et ça coûte moins au niveau physique et ça permet de pouvoir faire plus de choses dans la journée. Souvent, je remarque que c'est comme mettre le moteur à fond, comme quand les gens sont dans une voiture et au feu, là, on entend les moteurs qui vroom, 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 ils n'ont même pas démarré. C'est un petit peu ça, hein, y a le moteur de fond qui est tout le temps là, et après, au moment de démarrer, c'est vroom, et on n'est pas obligé de mettre ce paquet-là pour faire un mouvement. C'est important qu'il y ait justement quelque chose qui soit plus léger. Qu'il soit fait en rééducation, en kiné, en sport, mais aussi dans la vie quotidienne. Les mouvements, ma préférence, des mouvements souples et naturels, pas forcément les mouvements segmentaires, extension du bras, c'est-à-dire le mouvement naturel du bras qu'on lève. On n'est pas obligé d'aller forcer dans des zones qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Donc vraiment remettre un mouvement naturel en jeu, surtout que quand il y a plein de zones douloureuses qui sont en éveil, eh bien, il y a plein de compensations qui se mettent et il n'y a plus de mouvement simple. On perd la simplicité des choses. Donc, c'est vraiment à retrouver cette simplicité dans quelque chose, d'essayer de retrouver un corps le moins douloureux possible. Donc, plus vous forcez sur la douleur, plus on augmente tous les processus aggravants, en fait. Et tous les mouvements sont importants. Il n'y a pas de petits mouvements. Si vraiment une partie de votre corps est extrêmement douloureux, eh bien, ça peut aller jusqu'à visualiser ce mouvement, sans forcément l'effectuer. Donc, même en période de crise, les mouvements, on peut les faire, et serait-ce dans sa tête, ou dans le cadre de relaxation, de sophrologie, de tout ça. Parce que il y a quelque chose qui... Sinon, c'est pour éviter l'évitement d'une zone du corps, pour éviter de rentrer dans le morcellement du corps. Donc ce qui compte, c'est la conscience et la qualité du mouvement, et donc pas la quantité des mouvements effectués. Donc, ils peuvent être effectués, ces mouvements, tous les jours par le patient, en entretien, en gymnastique personnelle, si vous préférez. Et certains mouvements seront plus conseillés le matin, comme un temps de dérouillage et aussi une prise de conscience de comment est mon corps ce matin. Voilà, c'est-à-dire, ben voilà, je vais démarrer comment et comment est mon corps, ma voiture personnelle, mon mode de véhicule ce matin. Eh bien, apprendre à le respecter. Voilà, j'ai remarqué que, mais c'est pas réservé aux fibromyalgiques. Qu'on respecte plus sa voiture que son corps et qu'on l'entretient bien mieux. Et là aussi, ce qui est important, c'est de trouver la zone de confort du mouvement parce que ça touche beaucoup les muscles posturaux et que souvent, pour faire des mouvements simples de la vie quotidienne, on ne soulage pas ses muscles posturaux. On n'apprend pas à prendre des appuis avec son corps contre la table. On prend pas le soin de s'asseoir pour éplucher ses légumes. Il y a plein d'éléments comme ça où il faut, par plein de petits ajustements et de conscience de ce qu'on utilise, qui ne serait pas nécessaire d'utiliser pour faire ce qu'on est en train de faire, eh bien, il y a à réfléchir peut-être un peu là-dessus, à s'observer, et puis à modifier beaucoup de manières de faire qui permettraient de libérer ces muscles pour pouvoir les utiliser plus tard pour autre chose. Donc, pouvoir en faire plus dans la journée, éventuellement, ou en tout cas moins fatigué. Alors, la balnéothérapie a une place vraiment privilégiée, je trouve, dans l'accompagnement dans la fibromyalgie, parce qu'elle permet de baisser les pressions articulaires, de diminuer la douleur. Elle permet de retrouver aussi un schéma corporel non douloureux. Elle favorise la détente. Et il y a, voilà. Et si vous ne pratiquez pas une rééducation en balnéothérapie, eh bien simplement marcher avec de l'eau jusqu'aux épaules, voire jusqu'à la poitrine, par séquence de 10 minutes, repos 5 minutes, 10 minutes, repos 5 minutes, sans forcer contre l'eau, c'est-à-dire pas en marchant vite, mais en marchant comme un vieux dans l'eau et en déroulant son pas. Vous verrez que vous serez surprise de du travail musculaire qui est en jeu, surtout quelquefois, même chez des personnes non fibromyalgiques, ça peut déclencher, ça peut amener des réponses comme après une activité sportive. Et aussi une profonde détente. Et c'est un travail très en profondeur. Donc ne sous-estimez pas ça. Nous avons remarqué, nous, quand on l'utilisait en associant à la PCP-thérapie, une augmentation des résultats dans les traitements. En ce qui concerne la gestion de la fatigue, la fatigue est elle aussi variable, mais permanente et à respecter. Et respecter, ça veut dire quoi ? C'est respect de soi, en se ménageant. En se ménageant dans la manière de faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la manière dont on se bouge, dont on agit, la manière dont on se déplace. On n'est pas obligé de taper les pieds, de se dépêcher, de mettre du stress dans ce qu'on fait, augmente des tensions musculaires d'une manière extrêmement importante. Voilà, moi j'aime bien cet adage. Qui veut aller loin, ménage son corps. L'importance de trouver un équilibre entre des temps actifs et puis des temps de repos, donc de fractionner ces activités par des pauses ou des mini-pauses, et c'est à mettre dans sa vie quotidienne, d'autant si on est fibromyalgique, mais aussi quand on ne l'est pas. Et pour accompagner d'autres pathologies, c'est quand même quelque chose d'assez constant de toujours forcer les systèmes et de ne pas se donner des temps de pause. Il y a une espèce de culpabilité à s'asseoir, à se poser, à faire un quart d'heure de sieste. Il y a aussi un gros travail à faire à ce niveau-là. Mais le repos, oui, mais pas n'importe comment. Si on veut faire un temps de repos, ça peut être aussi intéressant d'y adjoindre des techniques de relaxation, de sophrologie, de tout élément qui va favoriser la détente, de façon à ce que ces pauses ou mini-pauses deviennent récupératrices dans la mesure du possible. Voilà, donc il y a des manières de simplement s'asseoir en se posant pour se relâcher au maximum. Et si on n'est pas vigilant, à cause de cette tension de base, elle est tout le temps augmentée. Vous oubliez de vous détendre. Alors que nous, quand on va se détendre, on va se détendre plus rapidement, mais vous oubliez de vous détendre. C'est-à-dire quand vous êtes on pense que vous êtes en position de détente, de relâchement, et en fait, vous ne vous relâchez pas, jamais. Donc, il y a vraiment un travail en conscience à faire pour trouver les moyens de baisser un peu ce volume intérieur au niveau des tensions musculaires. C'est indispensable. Alors, en kinésithérapie, je vais donner des consignes de la kinésithérapie pour le patient qui est suivi en PCP-thérapie, parce qu'il peut être suivi en PCP-thérapie, par exemple, à l'hôpital, et être suivi en kinésithérapie, en cabinet de ville, par un kinésithérapeute. Donc, là, par contre, il y a des choses à ne pas faire après des séances de PCP, donc c'est spécifique à la PCP, mais je vous le transmets, puisqu'on a l'occasion de le faire. Donc pour tous les patients en tout cas, il ne faut pas faire d'efforts importants pendant les 48 heures qui suivent la séance. Pas de stretching et pas d'étirement, même en rééducation, dans les 48 heures qui suivent la séance. C'est important et on risque d'aggraver les choses derrière, donc sachez-le. Pas d'aquagym, là par contre la marche est vraiment très conseillée. S'il y a des massages, les massages doivent être à type d'effleurage en technique de kiné. Et surtout pas de massage sur les points douloureux, là par contre. Et pas de manipulation, donc pas d'ostéopathie manipulatrice, structurelle, en tout cas dans le cadre d'un patient suivi en PCP. Et voilà, moi j'avais à vous faire une conclusion, puisqu'on travaille aussi dans la globalité, eh bien voilà, en tant que praticien ou patient. La fibromyalgie, comme beaucoup de nos maladies, nous questionne, nous invite à la patience, au respect, à l'écoute, à l'acceptation de nos limites, au non-jugement et encore à plein d'autres choses. En tout cas, peut-être aussi à modifier un petit peu notre manière de vivre pour être un peu plus en accord avec nous-mêmes et avec qui on est, ce qu'on est. Ça, ça devrait être pour tout le monde. Mais vous avez un aiguillon qui est la fibromyalgie pour vous y inviter davantage. Et quand on respecte ces limites, on va beaucoup plus loin. Merci. Et vous avez un temps de questions. Vous avez des questions?
Bonjour, j'ai une petite question justement. Dans votre dernier slide après le PCCP, vous disiez pendant 48 heures de ne pas faire certains éléments, mais que la marche était conseillée. Également la marche rapide?
Non, la marche qui est conseillée, c'est la marche en piscine avec de l'eau jusque-là.
Ah oui, d'accord.
Voilà. La marche rapide, je ne suis pas pour tout ce qui force. Voilà.
D'accord, ok.
Il y a déjà fort à faire avec des symptômes permanents, des signaux permanents. Moi, j'ai remarqué que les patients, une fois ce long travail d'acceptation de cette maladie, en tout cas de cet ensemble de symptômes qui bouscule complètement ma vie et qui fait que la vie telle que je la vivais avant, je peux plus la vivre, en tout cas pas de la même manière. Et que pendant un temps, je vais forcer et continuer et vouloir faire comme avant, quoi qu'il se passe, et de lutter contre, etc. Une fois ce temps de réajustement par rapport à des éléments qui nous amènent à faire autrement, eh bien, quand ça est mis en place, quand il y a vraiment un respect de ça, et je vois que les gens reprennent une activité quasi normale, ça peut vraiment reprendre une vie normale ou quasi normale est possible, quoi. Donc, mais elle a toujours, hormis tous les traitements associés, bien sûr, il y a aussi un travail, vous aussi, c'est votre travail personnel à réajuster peut-être pas mal de choses dans sa propre vie, et ça c'est pas facile et ça demande du temps, et voilà. Et nous thérapeutes, quel que soit l'outil thérapeutique qu'on a, on doit en avoir conscience et essayer de vous aider dans ce chemin que vous faites aussi et qu'on fait ensemble, quoi.
Bonjour madame, vous avez parlé du bienfait de l'eau.
Oui.
Alors est-ce que on trouve maintenant dans les cures en thermalisme des cures avec option fibromyalgie?
Oui.
Alors, est-ce que ça vaut le coup de tenter cette aventure? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on a comme recul là-dessus?
Pour la cure, oui, il y a des cures qui sont extrêmement intéressantes. Mais je vais passer la parole plutôt à Ghislaine pour cette question, parce qu'elle a elle a plus d'informations que moi là-dessus. Mais oui.
Merci.
Oui, en ce qui concerne les cures thermales, c'est vrai que ça fait 3 ans déjà que nous faisons les salons des thermalies, et ce, grâce à Marie-Hélène, là. Et nous avons fait une approche avec les établissements thermaux pour savoir comment adapter les cures thermales aux patients fibromyalgiques. Donc, il est vrai qu'il existe des cures avec un programme spécifique fibromyalgique. Et justement, notre association, on va vous en parler tout à l'heure, mais nous avons participé aux travaux du CNET, qui est le syndicat des établissements thermaux, pour établir un programme d'éducation thérapeutique du patient fibromyalgique pour qu'il y ait une normalisation dans tous les établissements thermaux afin qu'il n'y ait pas de dérive. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir un directeur d'établissement thermal ici, qui est là-haut, de Bourbon-Lancy, qui est venu, comme il était déjà venu, au mois de janvier également, au mercredi de la fibromyalgie, et pourrait vous dire des choses complémentaires là-dessus. D'ailleurs, le projet d'éducation thérapeutique du patient fibromyalgique, c'est avec son centre thermal que ça va être présenté aux agences régionales de santé, donc ça va être le centre pilote. Donc là-dessus, il y a des progrès aussi, hein. Mais c'est un traitement, ça fait partie des traitements. Et il va faire la PCP thérapie aussi. Voilà, c'est un scoop. Vous voyez, je viens de l'apprendre. Bravo à Bourbon-Lancy. Bourbon-Lancy, c'est pas très loin, Didier, on en reparlera.
Ah, bah, c'est tout.
Le micro.
Je vous passe le micro juste après. On donnera un petit temps de... Oui, ben je vais restituer la question. Si... Ah, attendez, le micro est là-bas. Et il va passer ici après. Oui.
Oui, bonjour. Je voulais savoir si la fibromyalgie, c'est héréditaire.
Alors là, je ne peux pas répondre clairement.
Écoutez, c'est une question. Je vous ai dit, je reviens, je ne suis pas spécialiste de fibromyalgie, c'est un constat. C'est un constat, c'est que si l'hypothèse que je crois, c'est-à-dire c'est un problème tendinomusculaire qui traîne avec d'autres pathologies en fait, psychosomatiques, enfin psychologiques, ou tout ce que le docteur Binoche nous a expliqué, ce qui évidemment, tout ce que je vous ai dit, quelqu'un dans la famille, quand il y a une mauvaise posture, donc vos enfants, ils auront une mauvaise posture aussi. Si vous êtes de travers, malheureusement, vos enfants seront de travers. Si en plus de ceci, il y a une hypersensibilité associée, donc je ne sais pas. Par contre, je pense que héréditairement, vous pouvez très bien transmettre une mauvaise posture, une hypersensibilité qui pourrait, on va dire, ensuite déclencher ces douleurs de fibromyalgie. Fibromyalgie, si vous suivez un peu, vous posez les questions, moi j'écoute les patients. Tout ce que je sais, c'est à travers les patients. Donc je n'ai pas cherché à faire bibliographie, je suis désolé, hein, je n'ai pas le temps. Moi j'écoute mes patients, les patients disent tous, ils ont tous une pathologie depuis ce temps. J'avais une entorse, je suis tombé, ça allait bien, j'avais des douleurs par-ci, par-là qui traînaient. Et puis à un moment donné, vous savez, c'est comme un barrage d'eau. Un barrage d'eau, quand ça cède, c'est pas le jour X ça cède, c'est qu'avant il y avait une fissure. La fissure, c'est, comment dire, ça s'aggrave et le jour J, il y a, je ne sais pas, un torrent, il y a un surmenage et puis voilà. Donc ensuite, le barrage cède. Fibromyalgie, c'est exactement pareil. Quand vous posez la question aux fibromyalgiques, ils disent oui, j'ai eu en fait un décès de la famille, il y a un problème psychologique, mais si vous cherchez à comprendre en fait comment ça se passe, vous retrouverez toujours des pathologies, des douleurs. Je touche le corps des patients là où ils ont des tensions musculaires, on retrouve des tensions, et quand on dit ces tensions viennent de quand, c'est pas 3 ans, 5 ans, quand il y a 3 ans, 5 ans quand ils ont la pathologie, souvent c'est antérieur. Je sais pas, j'ai un peu débordé par rapport à votre question. Donc, je ne crois pas que ce soit... Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'on va trouver que c'est héréditaire. Par contre, si vous prenez cet ensemble, c'est-à-dire, vous prenez le contexte, quand je vous ai dit, des pathologies tendinomusculaires, la posture et puis l'hypersensibilité, ce côté-là, oui. Oh, voilà. Et puis, autre chose, moi, je vous dis ce que je sais. Hein. Donc ensuite, la médecine, on peut pas... Plus on en fait, moins on en sait.
Non. Et si c'est héréditaire, comme le cancer, il peut y avoir des cancers dits héréditaires, ça, on n'est pas obligé de le déclencher non plus. Donc on a aussi, voilà, il n'y a pas de...
Oui, bonjour. Je sais depuis une semaine que je suis fibromyalgique. Je dois choisir un kinésithérapeute parce qu'on m'a prescrit 20 séances. Je voudrais savoir comment je choisis mon kiné. Est-ce que si je dis je suis fibromyalgique, il saura quoi faire? Je peux lui faire confiance? Mais je lui présente vos slides que j'ai copiés ou voilà.
Alors soit il connaît déjà, il a déjà une expérience personnelle et il va vous accompagner. Soit il connaît pas, mais il est déjà bien à l'écoute de vous et donc s'adaptera à vos symptômes et sera créatif et finalement respectera de par son comportement et la manière de vous aborder déjà finalement ce que j'ai dit, parce que ça c'est venu aussi par une recherche personnelle et d'autres kinés ont fait chacun dans leur coin la même démarche individuellement, puis maintenant on se met en commun et on s'aperçoit qu'on a les mêmes, on arrive aux mêmes conclusions et ça se passe bien. C'est celui qui va vous aider à vous soulager le plus possible, mais voilà, on ne peut pas attendre d'une personne qu'elle règle toutes les douleurs ou tous les problèmes, parce que c'est pas au résultat non plus. Je ne sais pas comment vous dire. Vous pouvez... Enfin, l'éducation, elle se fait aussi par vous, qui connaissez bien ce que vous avez, qui êtes sensibilisé, qui êtes bien renseigné. Vous en connaîtrez peut-être plus que votre médecin, peut-être sur cette pathologie, ou que votre kiné. Mais si vous avez un kiné qui est ouvert ou un médecin qui est ouvert, il n'est pas forcément contre les informations que vous allez lui amener, bien au contraire. Donc, à la limite, vous pouvez, avec doigté, quoi, enfin, avec finesse, lui amener les éléments qui vont lui permettre de vous aider. Parce que les techniques, il en a plein. c'est la manière de les utiliser qui est importante. Voilà, c'est les mouvements, vous les connaissez tous, mais c'est la manière de les faire qui est importante. Et les techniques utilisées, il y en a plein. Il n'y en a pas une, il y en a plein. Voilà. Donc après, c'est, si vous respectez ce que j'ai donné à peu près là, vous devriez pouvoir trouver votre chemin et le thérapeute qui vous convient. Et tous, voilà, il y a plein de gens qui sont vraiment bien dans leur manière de faire. Il y a, heureusement, parce que...
Je voulais demander quelle est la bonne température de l'eau pour la balnéothérapie pour les fibromyalgiques. Quelle température est favorable?
Plutôt 34 degrés.
34, c'est assez chaud. Ça dépend degrés. Ce qu'on fait dans l'eau aussi.
Voilà, exactement.
Si c'est au début.
Après, il y a plein de. Mais je suis pas spécialisée dans la balnéothérapie, une température suffisante, oui.
Et il y a aussi le tai chi chuan qui nous semble très très intéressant.
Alors, le tai chi n'est pas une technique de kinésithérapie, le tai chi, le shiatsu, le qigong, toutes les techniques qui vont permettre une conscience de soi qui intègre l'ensemble du corps, toutes les approches. Qui intègre la respiration, qui intègre un mouvement lent, respectueux, détendu, etc. Tout ce qui va vous permettre d'apprendre ça, on parle de rééducation, mais c'est soi-même à se rééduquer aussi. Voilà. Et donc toutes ces approches-là sont extrêmement intéressantes. Il n'y a pas une approche unique. Ne cherchez pas le médecin, la technique miracle, le kiné merveilleux, le qui va résoudre tout. Ça marche pas. C'est pluridisciplinaire, ça vient bouleverser.